Forêt, biodiversité et climat. Une émission de Radio Zinzine, deuxième partie. Nous nous retrouvons dans le cadre de la grande conférence sur les forêts, la biodiversité et le climat, organisée à Bruxelles par la Commission européenne les 4 et 5 février 2020. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la capacité de différentes formes de forêts à résister au changement climatique. Les forêts naturelles, mixtes et matures, étant beaucoup plus résilientes que les plantations. Il était également question du rôle vital joué par les forêts pour l'atténuation du réchauffement climatique et pour le maintien de la biodiversité. Officiellement, la question des forêts ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne, mais l'urgence climatique et la perte vertigineuse de la biodiversité ont certainement convaincu la Commission européenne qu'il était temps d'accorder plus d'importance aux forêts. Dans cette deuxième partie, nous aborderons un autre aspect essentiel, celui de la pression accrue exercée sur les forêts à cause de l'expansion fulgurante de la combustion de la biomasse forestière à une échelle industrielle pour la production de l'énergie et notamment de l'électricité. En 2018, la Commission européenne a adopté une nouvelle directive sur les énergies renouvelables pour la période 2020-2030, accordant une place très importante à l'énergie produite à partir de la biomasse. La Commission actuelle, présidée par Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle allait réexaminer de nombreuses décisions et directives déjà adoptées à l'aune de l'urgence climatique. Nous avons donc voulu savoir si cela pourrait mettre en question le contenu de cette nouvelle directive sur les énergies renouvelables. Écoutons Hanna Mowat de l'association Fern, qui est basée à Bruxelles et dont l'objectif est de protéger les forêts au niveau mondial.
Oui, je pense que oui, c'est possible de le revoir. Cette directive sera révisitée. Mais on est en conflit direct avec l'envie de la population et des décideurs d'avoir une ambition de réduction de gaz à effet de serre plus importante. Donc là, il est question, on est sur une réduction de moins 40% vis-à-vis 90 de gaz à effet de serre pour 2030. Il est question maintenant d'accroître cette réduction à moins 50, voire 55%. Et il sera question de comment le faire. Et jusqu'à maintenant, en tout cas dans l'énergie renouvelable, la réponse très simple, c'était avoir plus de bioénergie. Bon, là, je simplifie un petit peu, mais on a vu une énorme hausse dans la bioénergie depuis que les aides de la directive énergie renouvelable ont été établies. Donc, je pense que là, on va entrer dans une discussion intéressante. Parce que, au même moment qu'il y a un engouement d'intérêt et d'amour pour les forêts, il y a aussi un engouement et d'amour pour l'énergie renouvelable. Et il va falloir un peu mettre ce paradoxe aux décideurs et de dire, voilà, si on veut avoir des forêts en santé, et on veut avoir plus de forêts, et on veut aussi avoir une réduction de gaz à effet de serre qui est importante, il va falloir faire plus d'efficacité énergétique. Et il va falloir aussi mettre beaucoup plus d'argent dans d'autres sources de chaleur. Parce qu'en fait, le bois est utilisé pour deux choses, la chaleur surtout et aussi l'électricité. Pour faire l'électricité, il faut très simplement avoir beaucoup plus de panneaux solaires et d'éoliennes. Et pour la chaleur, les réponses sont moins simples, mais la géothermie est une réponse assez évidente aussi.
Après Hanna Mowat de l'association bruxelloise Fern, restons sur le sujet de la biomasse forestière brûlée pour produire de l'énergie. Depuis plusieurs années, William Mouman est l'une des voix les plus critiques contre cette fausse solution prétendument écologique. William, ou Bill Mouman, professeur à l'université de Tufts aux États-Unis, est l'un des grands experts américains sur le changement climatique. Il a été, entre autres, un co-auteur de 5 rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il s'insurge contre le mythe largement répandu de la neutralité carbone de la combustion de la biomasse à des fins énergétiques. Quel message a-t-il voulu apporter à la conférence à Bruxelles ?
Well, it's good that people have gotten the message that burning fossil fuels releases carbon dioxide that traps heat. What for some reason they fail to get is if you burn wood, you produce more carbon dioxide for every unit of heat than if you burn coal.
C'est une bonne chose que beaucoup de gens aient compris que le fait de brûler des carburants fossiles provoque des émissions de CO2 qui ensuite piègent la chaleur. Mais l'information qu'il faut bien comprendre est que si vous brûlez du bois, vous produisez encore plus de CO2 pour chaque unité d'énergie que si vous brûliez du charbon. Et si vous le brûlez pour faire de l'électricité, c'est totalement inefficace. Par exemple, lorsque des gens pensent qu'en ajoutant un peu de bois au charbon, ils vont produire de l'énergie avec moins d'émissions de carbone, ils se trompent. C'est le contraire qui se produit. La centrale à charbon devient moins efficace et donc elle émet plus de CO2 par unité d'électricité qu'auparavant. Nous devons vraiment prendre en compte le fait que lorsqu'on brûle n'importe quoi qui contient du carbone, cela provoque des émissions de CO2. Et en plus, si nous coupons des arbres pour faire cela, nous réduisons la capacité des forêts à absorber du CO2 durant plusieurs décennies à venir.
Zero carbon. There's a difference between carbon neutral and zero carbon. Zero carbon means that there is none emitted.
Avec cette façon de faire, si tout va bien, il peut y avoir un moment où une forêt plantée pour remplacer celle coupée absorbera la quantité de CO2 qui a été émise 50 ou 100 ans auparavant. Et ça, c'est trop tard. Nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe. Vous pouvez appeler cela neutralité carbone, mais ce n'est pas zéro carbone, qui signifie qu'il n'y a aucune émission de carbone. Lorsqu'un panneau solaire produit de l'électricité, il n'y a pas d'émission de CO2. C'est la même chose avec une éolienne. Mais quand vous brûlez du bois, beaucoup de carbone est émis. C'est une mesure très facile à faire en laboratoire et le résultat est toujours le même. Plus de carbone est émis par unité de chaleur lorsque vous brûlez du bois par rapport au charbon. Et ceci pour une même quantité d'énergie produite.
C'est un simple expériment à faire dans un laboratoire pour mesurer. Et ça sort toujours le même. Il y a plus de carbone par unité de heat si vous brûlez du bois que si vous obtenez le même amount d'énergie. From burning coal.
I'd like you just to kind of perhaps say a little bit more about the carbon neutrality business. Je voudrais que vous développiez un peu plus cette question de neutralité carbone, car on entend cet argument partout en Europe, et c'est difficile de convaincre les politiciens et décideurs qu'il s'agit d'une fausse piste.
This is a false track.
Let me put it this way: if I had $1,000 in my bank account, and I said I'm going to spend $2,000, and I'm income neutral because in another year I'll have another $2,000 in the bank, you'd say I was mad.
Si j'avais $1,000 sur mon compte bancaire et que j'annonce que je vais dépenser $2,000, mais que je suis à revenu neutre, car dans un an j'aurai à nouveau $2,000 sur mon compte, vous direz que je suis fou. Cet exemple éclaire le fait que je ne suis revenu neutre en aucun sens. Or ici, on travaille avec des échelles de temps de décennies, voire de siècles. Si nous échouons à arrêter l'accroissement du taux de CO2 et à commencer à le réduire activement, nous nous condamnons. Mais c'est qui le « nous » Car qui sait qui sera le « nous » dans 2000 ans? Nous parlons ici de plusieurs millénaires, avec le niveau de température maximale que nous aurons atteint au moment où nous aurons arrêté d'émettre du CO2.
Of whatever maximum temperature we achieved when we stopped putting it in.
Yeah, because that's something you showed on one of the graphs you showed, which is that. Oui, c'est effectivement quelque chose que vous avez bien montré dans votre présentation à la conférence. On parle beaucoup de la température de l'an 2100. Avec 2, 3 ou 4 degrés de plus. Mais ce que peu de gens disent est que pendant 2000 ans, à partir de cette date, la température ne baissera pas, mais restera en gros la même. Même si je ne sais pas vraiment comment ils ont pu établir cela.
It would not go down again. It would stay more or less the same.
More or less the same. I mean, what they did was basically they looked at how rapidly heat is absorbed by the ocean.
Ce qu'ils ont fait, c'est de regarder à quelle vitesse la chaleur est absorbée par les océans, et c'est très lent. La couche supérieure devient plus chaude, mais c'est beaucoup moins le cas avec les couches profondes, là où vous voulez faire absorber la chaleur. N'oubliez pas que les océans constituent 70% de la surface de la planète. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est que plus de 90% de la chaleur rajoutée que nous avons piégée sur Terre est déjà dans les océans. Donc, ce que nous vivons sur les parties émergées ne représente que 10% de l'effet de la chaleur que nous avons provoqué.
Land is only 10% of the heat effect that we are have created.
Are there any other points you particularly want to mention?
Y a-t-il d'autres éléments que vous voudriez ajouter, des choses que vous essayez d'expliquer en Europe et aux États-Unis?
Not just in the States, but also in Europe.
Yes. Well, I appreciate the opportunity. I was invited to come and speak at this European Commission conference on forests for biodiversity and climate.
J'apprécie l'occasion de venir intervenir lors de cette conférence organisée par la Commission européenne sur les forêts pour la biodiversité et le climat. De nombreuses recherches dont je me sers proviennent de scientifiques européens, australiens ou américains. La science n'a pas de nationalité. Le message essentiel est que nous sommes dans une urgence climatique. Les 13 000 scientifiques qui ont soutenu cette thèse ne sont pas tous des scientifiques spécialisés dans la question du changement climatique. Mais ils observent son impact et le relient au changement climatique.
And connecting it to climate change. So we are in a climate emergency and we need to act rapidly.
Nous devons donc agir rapidement. Les systèmes naturels sont le moyen le moins coûteux et le plus rapide pour réduire l'accroissement du taux de CO2 dans l'atmosphère et même pour pouvoir un jour inverser la tendance.
By drawing down the excess carbon dioxide in the atmosphere.
Yeah, somebody said today that I can't remember the figure exactly, but we're talking about.
Aujourd'hui, des milliards d'euros sont dépensés pour encourager la combustion de la biomasse pour la production d'électricité en Europe. Si cet argent était utilisé pour protéger les vieux arbres et les forêts mixtes, cela aurait un énorme impact.
Would have just such an enormous impact.
Absolutely, I always say there's always this opportunity cost of any money that's spent, as the economists refer to it.
Absolument. Je dis toujours qu'il faut calculer les bénéfices et les coûts de tout argent dépensé, comme diraient les économistes. Et imaginez tout ce que nous pourrions faire avec ces milliards d'euros utilisés pour subventionner le fait d'émettre encore plus de CO2 dans l'atmosphère et pour couper des forêts qui pourraient le séquestrer. D'ailleurs, je suis aussi plutôt sceptique sur beaucoup des projets de compensation d'émissions de carbone. Même si quelqu'un plante véritablement l'arbre pour lequel j'ai payé $40 pour compenser mon voyage pour venir ici à Bruxelles, je me demande combien de temps il faudra à ces arbres pour vraiment le faire.
I must say, I also heard that just recently that in Turkey.
J'ai aussi entendu récemment qu'en Turquie, ils ont planté je ne sais pas combien d'arbres, plus d'un million en tout cas, et ils ont vu un an plus tard qu'environ 80% étaient morts car ils n'ont pas été irrigués.
Died because they hadn't been, you know, had been watered.
Exactly, exactly. I mean, you cannot just plant a tree and walk away.
Exactement. Vous ne pouvez pas simplement planter un arbre et ne plus vous y intéresser. Là où j'habite, dans une zone boisée, si vous plantez un arbre, il est très probable qu'il sera mangé par les biches durant l'hiver. Le taux de survie des arbres récemment plantés est très bas. Planter des arbres dans des villes est une bonne idée, même si vous ne stockez pas beaucoup de carbone. Ces arbres absorbent de l'eau qui s'évapore ensuite, ce qui contribue à refroidir la température. Les villes avec beaucoup d'arbres ont 5 degrés de moins que celles avec peu d'arbres. Peut-être même plus. J'ai entendu parler de 15 degrés, ce qui est extraordinaire.
Maybe even more. I heard one the other day that they were talking about 15 degrees Celsius. That's extraordinary.
That was an interesting figure, but that was between the center of Berlin.
Oui, ça, c'était intéressant, mais il s'agissait de la différence énorme entre le centre de Berlin et une forêt à 20 km de la ville.
So that there was this massive difference.
That's right. I mean, you have said it also reduces flooding because the trees are sucking up the water and evaporating it as opposed.
Les arbres dans les villes réduisent aussi le risque d'inondation. Les arbres absorbent de l'eau qui autrement coulerait sur la surface. Cela empêche aussi l'érosion des sols. Il y a encore une chose que j'aimerais souligner au sujet de la bioénergie. Les émissions provoquées par la combustion de la biomasse contiennent les particules les plus dangereuses pour la santé de toutes les formes de combustion. Aux États-Unis, l'Académie des pédiatres et l'Association pulmonaire américaine se sont déclarées opposées à la combustion de bois. Et néanmoins, nous le faisons dans des écoles rurales, comme au 19e siècle, en utilisant une chaudière moderne. Si c'est moderne, ça doit être bon. Et nous voilà en train d'exposer des enfants souffrant potentiellement d'asthme à cette fumée. Les particules sont tellement fines qu'elles ne peuvent pas être stoppées par des filtres. Ils diront qu'ils arrivent à bloquer 95% de la pollution, mais les 5% qu'ils n'arrivent pas à stopper sont les plus dangereuses pour la santé. Certaines particules sont tellement fines qu'elles traversent la barrière sanguine du cerveau, elles pénètrent dans tous les organes de votre corps, elles traversent la barrière du placenta d'une femme enceinte et arrivent dans le fœtus. Cela n'a aucun sens de nous exposer à l'une des choses les plus dangereuses que nous pouvons respirer. Cependant, nous donnons des subventions pour encourager des entreprises à le faire. Donc il nous faut réagir pour des raisons de santé, pour des raisons liées au climat, pour la biodiversité biologique et tout simplement pour notre bien-être global.
So we really should get together for health reasons directly and for climate reasons and for biological diversity reasons and just for our own well-being.
C'était donc William Moomar, l'un des principaux experts américains sur le changement climatique. Restons aux États-Unis et écoutons Mary Booth. Elle est directrice du Partnership for Policy Integrity, une ONG qui s'est donnée comme priorité la lutte contre la destruction de forêts, entre autres aux États-Unis, pour produire de la biomasse sous forme de pellets pour les grandes centrales électriques, notamment en Europe. Elle a même initié une plainte collective contre la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne.
Well, biomass has been an interest of mine for a long time. I've been working on bioenergy issues in the US since 2008.
La question de la biomasse m'intéresse depuis longtemps. Aux États-Unis, je travaille sur le sujet de la bioénergie depuis 2008. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que les pellets ou granulés de bois étaient produits aux États-Unis et au Canada, puis transportés vers l'Union européenne, où ils sont considérés comme un combustible soi-disant neutre en carbone, afin de remplacer le charbon. Avec un certain nombre d'excellents alliés aux États-Unis, comme la Dogwood Alliance et le Comité pour la défense des ressources naturelles, le NRDC, j'ai commencé à travailler sur cette question dans l'Union européenne, et notamment au Royaume-Uni. Petit à petit, ce travail a dominé ma vie. En ce qui concerne l'Union européenne, c'est la directive sur les énergies renouvelables, qu'on appelle la RED, qui a encouragé la politique de subventions publiques qui ont favorisé l'importation de pellets des États-Unis. Lorsque l'Union européenne a commencé à négocier la prolongation de cette directive pour une nouvelle période, j'ai eu la possibilité de travailler avec nos collègues européens afin d'avoir une influence sur son contenu. Nous voulions obtenir des réglementations qui protégeraient les forêts et le climat au lieu de continuer à provoquer les dégâts que nous avons observés ces 10 dernières années.
And get them to put rules in place that would protect forests and the climate and not continue perpetuating the damage that had been done over the last 10 years.
Can you give me a little idea of the scale we're talking about? I mean, as an American, like what is the impact? Pouvez-vous me donner une idée de l'échelle des dégâts? Quel a été l'impact sur les forêts aux États-Unis de l'utilisation de pellets dans les centrales électriques en Europe? Power stations.
Well, right now, the wood pellet industry is responsible for harvesting, you know, millions of trees on tens of thousands of hectares in the U.S. each year.
Actuellement, l'industrie des pellets est responsable de l'abattage de millions d'arbres sur des dizaines de milliers d'hectares aux États-Unis chaque année. Ces entreprises sont toujours très offusquées lorsqu'on les accuse d'être responsables des énormes coupes rases dans les forêts du sud-est des États-Unis, en disant qu'une partie du bois part aux scieries et que ce n'est pas nous. Mais lorsque l'industrie des pellets intervient, il ne reste que des souches et de la boue. C'est dévastateur. Ce ne serait pas si surprenant s'ils n'abattaient que des plantations de résineux, puisqu'elles ont été plantées pour les besoins d'industries comme celle de la pâte à papier et des scieries. Mais ils abattent aussi des forêts naturelles, dans des zones humides, avec des arbres qui ont plus de 100 ans. Ce sont des réservoirs irremplaçables de carbone et de biodiversité qui sont détruits au nom de l'énergie verte.
biodiversity that are literally being leveled in the name of green energy.
Okay, so a court case, what does that involve? For a certain number of... Vous avez donc initié une plainte contre l'Union européenne. Qu'est-ce que ça implique? Il y a différentes organisations à travers l'Europe qui sont co-plaignantes, c'est ça? Organizations across Europe who have become part of it.
Yeah, well, we filed the court case after the RED was finalized, and we were really disappointed with the so-called sustainability provisions.
Nous avons déposé notre plainte après l'adoption de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables qui nous avait profondément déçus. Les clauses sur les soi-disant critères de durabilité qui y sont intégrées afin de protéger les forêts n'apportent en réalité aucune protection. Aucune disposition dans la directive n'empêchera les coupes rases ni ne permettra une réduction de la quantité de carbone émise dans l'atmosphère. Nous avions une toute petite fenêtre d'opportunité pour le dépôt de cette plainte après la publication officielle de la directive dans le journal de l'Union européenne. Nous avions seulement quelques semaines. Nous avons donc réuni un groupe de co-plaignants. 5 sont issus de différents pays membres de l'UE et 1 des États-Unis. Chacun a subi d'une manière ou d'une autre les impacts de la récolte de biomasse ou du fait d'habiter près de centrales brûlant du bois. Nous avons réuni tout un argumentaire pour contester le raisonnement de la directive qui considère que la combustion de la biomasse ne provoque pas d'émissions et qui accorde des milliards de subventions sous le prétexte de produire de l'énergie renouvelable. Nous avons rassemblé les témoignages des co-plaignants, tout ça dans une période d'environ 12 semaines.
And we took testimony from the different plaintiffs and pulled it all together in a period of about 12 weeks.
Just remind us, because many European citizens don't know what kind of court we're talking about.
Beaucoup de citoyens européens n'ont aucune idée du tribunal dont vous parlez. Pouvez-vous nous expliquer le processus?
Explain the kind of process, maybe.
Well, the process was that we worked with lawyers that...
Nous avons travaillé avec un cabinet d'avocats basé à Londres, qui s'appelle LIDEI. C'est moi qui ai préparé toute la partie scientifique de l'argumentaire et j'ai vu avec les avocats comment certaines dispositions de la directive violent les fondements du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce traité est censé fournir une protection et certaines lignes directrices par rapport à ce que les législations sur l'environnement devraient incorporer.
So we developed arguments about how the RED did not meet those criteria.
Nous avons donc élaboré tout un argumentaire pour montrer que la directive ne respecte pas ces critères. Nous avons créé un site internet et puis nous nous sommes dépêchés de présenter tout cela au tribunal avant la date butoir. Maintenant, nous attendons de savoir si le tribunal examinera l'affaire, car il est très difficile d'obtenir qu'il déclare admissible une telle plainte. Mon organisation n'est pas une co-plaignante. Nous avons seulement coordonné la plainte. Mais pour les co-plaignants, nous devons montrer au tribunal qu'ils ont été individuellement et directement impactés par le phénomène que nous contestons. Ce n'est pas facile de remplir ces conditions. Nous sommes donc dans l'attente.
Mary Booth et les co-plaignants impliqués dans cette plainte collective sont toujours dans l'attente d'une décision de la part du tribunal de l'Union européenne. Tournons-nous maintenant vers Peg Pat, militante depuis presque 40 ans pour la protection des forêts dans son pays, l'Australie, et plus largement à l'échelle planétaire. Ces derniers mois, marqués par des feux immenses sans précédent, ont été une épreuve terrible pour elle et ses amis activistes. Peg Pat revient sur ce long engagement.
Yeah, trying to protect the forest really has become my life ever since I was quite young.
Essayer de protéger les forêts est vraiment devenu ma vie. Depuis que je suis jeune, depuis 1976, je suis impliquée dans la mobilisation pour la protection des forêts en Australie, puis à travers le monde.
Then, as my life has progressed around the world.
And that took what forms? I know that at one stage you were even a member of parliament. Cet engagement a pris quelle forme? Je sais que tu as été parlementaire. Est-ce que cela a eu un lien avec les forêts? Est-ce que tu milites dans une organisation? Or how have you been acting, in fact?
Oh, yes. Well, being a member of parliament was about the forest. I was a Greens member of parliament and, in fact, became the Greens leader for a decade.
Le fait d'être membre du Parlement était effectivement lié au combat pour les forêts. J'étais une députée des Verts et je suis même devenue présidente des Verts pendant 10 ans dans le Parlement de l'État de Tasmanie. En Tasmanie, les Verts ont toujours été fortement associés au mouvement pour la défense des forêts. Ils étaient membres d'organisations non gouvernementales et puis se faisaient élire au Parlement en tant qu'activistes afin de l'utiliser comme plateforme pour des activités militantes. Cela permettait que lorsque nous contactions les médias, ils venaient nous écouter. Avant cela, j'ai travaillé comme bénévole auprès de différentes ONG et nous avons eu quelques succès importants.
One of the most beautiful waterfalls and ponds in deep in the rainforest was named Protesters Falls after us. Unfortunately, it burnt in the bushfires this year. Pure rainforest, so dry.
Nous avons réussi à obtenir la protection de forêt tropicale dans le nord de New South Wales. L'une des plus belles cascades avec des lacs au cœur de cette forêt a été nommée Protesters Falls, les cascades des contestataires, en hommage à ces luttes. Malheureusement, cette merveille a été détruite cette année dans les incendies. Une forêt tropicale qui était devenue tellement sèche à cause de la sécheresse en lien au changement climatique, tellement sèche qu'elle a brûlé, et nous craignons qu'elle ne survivra pas. C'est terriblement déprimant. En Tasmanie, nous avons eu des victoires importantes. Nous avons, par exemple, réussi à empêcher la mise en place d'une usine de plaquettes de bois pour l'exportation. Cette entreprise aurait déchiqueté et exporté de vastes quantités de bois coupés dans de très importantes forêts fraîches et tempérées qui comprennent un étage inférieur de forêts tropicales et un étage supérieur de grands eucalyptus. Elles ont les plantes à fleurs les plus hautes du monde. Elle est la plus dense en carbone, jusqu'à 2000 tonnes de carbone par hectare. C'est un endroit magnifique. Nous avons donc gagné ce combat. Et nous avons même réussi à contraindre le gouvernement à compenser financièrement les promoteurs qui avaient obtenu l'autorisation. C'est quelque chose que beaucoup de gens pensent être impossible. Je ne voulais pas vraiment être au Parlement. Ce n'était qu'un moyen de sauver des forêts. Après mon départ du Parlement, j'ai commencé à travailler au niveau international sur les questions des forêts et du climat. Je le fais depuis 11 ans au sein de différentes organisations australiennes et internationales comme Global Witness, Témoin Global, et Environment Investigation Agency, l'agence d'enquête environnementale, qui ont des sections au Royaume-Uni et aux États-Unis. J'ai travaillé pour la section américaine. Finalement, je me suis engagée dans Environment Paper Network, le réseau environnemental sur le papier. L'une des choses que j'ai constatées, à laquelle il n'y a pas eu de réponse au niveau mondial, était la menace majeure que représente l'utilisation massive de la biomasse forestière pour la production d'énergie dans de grandes centrales électriques ou pour la production combinée de chaleur et d'électricité. Ça a commencé en Europe et ça a ensuite pris des dimensions folles.
Happening in Europe and then beginning to go berserk, but that when Japan had their terrible tsunami and then the ensuing nuclear disaster and were going off nuclear power, it was clear to me that they would probably move in part to biomass energy.
Lorsque le Japon a subi le terrible désastre à Fukushima et qu'il a cherché des alternatives à l'énergie nucléaire, ça me semblait évident qu'ils se tourneraient vers la biomasse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Cela est en train d'arriver aussi en Corée du Sud. Cet engouement pour la biomasse a été encouragé par le fait qu'elle est reconnue comme renouvelable au niveau mondial, ce qui est vraiment pervers. J'ai donc évoqué ce problème avec les autres membres de l'EPN, le réseau qui a surtout travaillé sur les menaces qui pèsent sur les forêts à cause de l'industrie du papier. Je leur ai expliqué qu'il y a une autre menace qui utilise le même type de bois, la même qualité bas de gamme, avec aussi des déchets et des résidus. Il fallait créer un nouveau réseau qui se spécialise sur la biomasse afin de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, mais aussi pour informer sur la réalité de cette menace avant que cette industrie ne soit bien installée. Enfin, pour tenter d'arrêter l'installation de telles centrales, surtout en voyant que le problème était en train de s'étendre vers l'Asie du Sud. Et je suis finalement devenue la coordinatrice d'un réseau mondial sous l'égide du réseau environnemental sur le papier. Il s'appelle le groupe de travail sur les forêts, le climat et l'énergie à partir de la biomasse.
The long and the short of it is I've ended up coordinating a global network under the auspices of the Environmental Paper Network called the Working Group on Forests, Climate and Biomass Energy.
What I'd like to really ask you is, you know, we've all seen these appalling fires, I mean, devastating to everybody, but particularly to you in Australia, and but somebody's been working so much in this area and loves the forests and so on. So I'd like to kind of know if... Nous avons vu ces incendies terribles, dévastateurs pour tout le monde, mais surtout pour vous en Australie, et particulièrement pour quelqu'un comme toi qui a tellement travaillé pour la protection des forêts. J'aimerais savoir si c'est un phénomène qui est arrivé d'une manière totalement inattendue, ou si les feux font partie déjà depuis longtemps de la réalité en Australie. C'est quoi l'histoire, le contexte, et qu'est-ce qui a changé qui fait que le problème est devenu tellement énorme? And why is it now becoming so huge? What's changed?
As most people would know, you know, the eucalypt comes from Australia, and when it grows in Australia, it's a very beautiful tree.
Comme beaucoup de gens le savent déjà, l'eucalyptus vient de l'Australie, et lorsqu'il pousse chez nous, c'est un très bel arbre. Contrairement aux grandes plantations dans de mauvais endroits qui embêtent tout le monde. Chez nous, ce sont les résineux que nous détestons, comme des gens ailleurs peuvent détester les eucalyptus. Nous avons un environnement adapté au feu qui s'est développé pendant des millénaires. Nous sommes habitués aux feux de brousse. Ils sont arrivés de tout temps et les gens ont dû vivre avec cette menace. Ils ont compris comment la gérer en relation avec leur lieu de résidence. Comment protéger leur maison avec une zone débroussaillée autour d'elle, comment s'informer, etc. Ce qui arrive ces dernières années est dû au fait que le climat est en train de changer. Nettoyer la végétation autour de ta maison n'aura plus aucun effet si un incendie majeur arrive. Et ces feux sont devenus de plus en plus extrêmes. En Australie, nous avons une échelle des différents niveaux de danger dus au feu qui vont d'un danger faible à un danger moyen, danger élevé, danger sévère, danger extrême et danger catastrophique. Le niveau catastrophique est nouveau et il a été ajouté ces dernières années afin de correspondre au fait que les feux sont en train de devenir beaucoup plus intenses et beaucoup plus incontrôlables et tout simplement gigantesques.
Days of catastrophic fire in the place where I live, south of Hobart in Tasmania. There was a big fire in 1967. It roared.
Il y a toujours eu des cas de feux catastrophiques. Dans la région où j'habite, au sud de Hobart, en Tasmanie, il y a eu un très grand incendie en 1967 qui a déferlé à travers les forêts et qui est entré dans la capitale jusqu'à 2 km du bureau de poste central. Il a détruit des banlieues et il a tué environ 67 personnes. Donc ça a toujours existé jusqu'à un certain degré. Mais maintenant, nous avons très régulièrement ces énormes feux terriblement féroces qui affectent des zones beaucoup plus étendues. C'est impossible de les maîtriser. Ce n'est plus la question de réduire la masse potentiellement inflammable. C'est beaucoup plus une question d'agir par rapport au climat qui a tellement changé. Nous voyons cela parce que tout est devenu tellement sec, les vents se comportent différemment et nous avons de plus en plus de coups de foudre sèches qui provoquent les feux. Tout ça s'est tellement empiré. En Tasmanie, par exemple, dans l'ouest, qui est le désert reconnu comme un patrimoine mondial, nous avions 5 ou 6 coups de foudre lors de tempêtes sèches chaque année. Ces dernières années, nous avons vu plus de 2000 coups de foudre sèches par an. Voilà l'échelle du changement. C'est un phénomène contre lequel tu ne peux pas faire grand-chose, sauf essayer de t'en éloigner. En plus, dans ces régions très à l'écart, il y a de la tourbe qui est aussi un grand problème. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que c'est devenu apocalyptique et impossible à gérer, et que c'est vraiment à cause du climat, même si c'est très difficile d'en convaincre notre gouvernement. Mais les chefs pompiers l'affirment aussi.
Impossible. And it is because of the climate, although we have difficulty with getting our government to recognize that. But the fire chiefs are saying it.
But I have also heard that there's a problem with...
J'ai aussi entendu qu'il y a un problème avec l'éclaircissement des forêts. Cela a comme conséquence qu'elles se dessèchent plus, car elles sont moins protégées par une couverture dense.
They dry out more, there's less kind of coverage. Is that also a problem?
Yes, this is a big problem, particularly where forestry is practiced in the natural forests or replacing those natural forests, as we call them, native forests, with plantation.
Oui, cela est un grand problème, particulièrement là où l'on intervient dans des forêts naturelles ou lorsque l'on remplace des forêts naturelles ou autochtones avec des plantations. Cela a été démontré par des énormes feux dans l'État de Victoria il y a environ 10 ans. Des études ont montré que là où les forêts naturelles restent intactes, elles sont denses et elles ont un taux important d'humidité. Elles ont été une barrière au feu. Mais là où elles sont devenues des forêts de production, avec une rotation des coupes, elles étaient beaucoup plus sèches avec beaucoup moins d'arbres, moins de sous-étages humides et elles ont brûlé férocement. Là où elles ont été transformées en plantations, elles ont brûlé encore plus rapidement et férocement. La leçon est donc qu'il faut maintenir intactes nos forêts naturelles et renoncer à les couper ou à les éclaircir si on veut écarter le danger du feu. L'autre problème est que nos forêts sont très dispersées dans le paysage, ce qui a comme conséquence qu'elles se dessèchent sur les bords. Ça s'est passé, en général, pour gagner des terres pour l'agriculture ou pour l'urbanisation. Ces fragments de forêt brûlent plus facilement et en plus, ils sont plus proches des maisons qu'auparavant car on a commencé à construire dans ces zones.
It's much more fragmented, much drier, burned much faster and of course it's very very much closer to homes than it used to be because the homes moved into that area.
Are you basically saying that the timber industry as such is finished? I mean,
est-ce que tu es en train de dire que l'industrie forêt-bois doit cesser ses activités car on ne peut plus faire quoi que ce soit dans ces forêts? Ou est-ce que tu dirais que c'est possible de maintenir une couverture forestière comme le préconise ProSilva ici en Europe avec des coupes sélectives pour des produits de qualité?
Logging for more high quality products perhaps would be possible?
Well, people have advocated ProSilva in Australia, but it's a different ecology. Doesn't actually work.
Des gens ont proposé les méthodes de ProSilva en Australie, mais c'est une autre réalité écologique, ça ne marche pas. Enlever les grands arbres dans les forêts pose un gros problème. La revendication maintenant est tout simplement d'arrêter les coupes dans les forêts naturelles ou autochtones. Nous avons déjà à notre disposition pas mal de plantations qui ont été mises en place à travers les années, soit en transformant des forêts naturelles ou sur des terres peu adaptées à l'agriculture. Nous en avons assez pour satisfaire nos besoins en bois.
Agricultural land that was actually degraded land and not very suitable for agriculture. We have enough of those to supply the timber needs.
Sorry, what happens if they're close?
Mais qu'est-ce qui se passe si ces plantations sont proches des forêts naturelles et qu'elles attirent le feu?
Draw the fire closer.
Yeah, they could draw the fire and burn. The thing about them is they can be regrown much more rapidly.
C'est une possibilité, mais dans ce cas, elle repousse aussi plus rapidement. Il faut 200 ans ou plus pour recréer une forêt naturelle. Mais personne ne va la laisser faire si elle est dans une zone où les forêts sont exploitées. Nous perdons donc beaucoup de notre biodiversité et aussi de notre capacité de stockage de carbone. En Australie, tout le monde doit accepter que des forêts brûlent. Mais la question est à quelle intensité? Et est-ce qu'elles auront la capacité de récupérer, de maintenir notre mix d'espèces végétales et d'animaux? Ce qui est devenu une question sérieuse. Environ 60% des zones habitées par les koalas ont brûlé. Pour certains autres marsupiaux, c'est même 100% de leur habitat. Une liste d'urgence des espèces menacées a été créée. il a été décidé d'arrêter d'urgence les coupes dans la région à l'est de Gibson, dont beaucoup de gens ont vu les images des énormes feux de cet été. Je crois que la moitié des forêts exploitées ont brûlé. Il y a déjà eu des inquiétudes sérieuses par rapport à la survie d'espèces autochtones. Et il a déjà été décidé de cesser les coupes dans les forêts naturelles en 2030. Nous disons qu'il faut les arrêter plus rapidement. Et l'industrie du bois devra tout simplement comprendre, comme nous tous, qu'elle ne pourra plus continuer à faire les choses comme avant. That logging of native forests in that state would cease in 2030. So what we say is we now have to bring that cessation forward. And the timber industry just has to unfortunately understand like we all do. You can't keep on doing things the way they have been done. The call now is for a paradigm shift. Ce qu'il faut maintenant est un changement de paradigme. Et faire en sorte que nous puissions garder ce qui reste, qui est déjà tellement abîmé. Nous aurons une production de bois, mais dans des plantations. Et c'est bien possible que certaines de ces plantations brûlent de temps en temps. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire contre cela. Les forêts naturelles brûleront aussi si on les exploite pour la production de bois. Bien sûr, sur des terrains privés, par exemple, moi j'ai une propriété. Sur les terrains privés, nous n'empêcherons jamais les gens de couper un peu de bois pour des piquets de clôture. Là où j'habite, un certain nombre d'arbres tombent naturellement, et j'en couperai le quart ou le tiers pour faire du bois de chauffage pour l'hiver. Ce n'est pas ce genre d'utilisation à petite échelle dont nous parlons, c'est de la production de bois à grande échelle dont il s'agit. En Australie, cela se passe en général avec des coupes rases, puis on y met le feu. C'est une technique dite de régénération qui a tendance à favoriser l'eucalyptus au lieu des autres espèces de sous-étage tropical. C'est bien sûr l'une des causes des incendies. Ce sont ces méthodes qu'il faut abandonner, car il faut maintenir autant d'humidité que possible dans ces forêts. From the other understorian rainforest species. So we don't that's what we need to move away from because we need to keep as much wetness as we can in those forests.
Is there a sort of vicious circle that because there is now much less forest, particularly the native forests, that will then increase the temperature because forests are well known that they...
Est-ce qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui s'est mis en place puisque maintenant il existe beaucoup moins de forêts, surtout naturelles, et que cela aurait comme conséquence que la température augmente? Il est bien connu que les forêts réduisent la température. Comment vois-tu l'avenir? Cette année, vous avez déjà vécu des températures extrêmement élevées. These areas you've already had
very high temperatures over this year. Yeah, look, I don't think anybody knows, but everybody's very frightened. The temperatures have been increasing.
Écoute, je crois qu'il n'y a personne qui sait, mais tout le monde a très peur. Les températures ont augmenté, et là où il y a des forêts, elles sont moins chaudes. L'autre service que les forêts fournissent, c'est d'assurer la provision permanente d'eau pour l'environnement, pour les humains et pour les villes. Là où les forêts disparaissent, l'eau disparaît aussi. Cela contribue dramatiquement à l'assèchement de tout le paysage et met en question la viabilité de certains lieux d'habitation. Cette année, à cause de la sécheresse qui a frappé une grande partie de l'Australie, des villes, les unes après les autres, n'ont plus eu accès à l'eau. Elles sont obligées d'en amener par camion d'un peu partout afin d'assurer leur viabilité. Et ce ne sont pas de petites villes, certaines sont de taille considérable ou moyenne.
Viable and they're not small towns. Some of them are quite, you know, substantial medium-sized settlements. So it comes back also to a change in habit for ourselves. We need to stop throwing things away. When we worry about plastic and the...
Cela questionne aussi nos habitudes. Nous devons arrêter de jeter tous ces objets. Nous nous inquiétons du plastique et du packaging jetable. Mais il ne faut pas le remplacer avec du packaging fabriqué à partir de bois. Ce serait juste déplacer le problème. Il faut simplement arrêter d'avoir du packaging jetable. Utiliser autre chose. Moi, je porte toujours avec moi ma tasse. À la maison, j'ai du tissu ciré pour couvrir les choses au lieu du papier. Et nous cousons nos propres sacs pour porter la nourriture. Tout le monde peut faire cela, ce n'est pas difficile. La société du jetable n'existe pas depuis si longtemps. Et je ne crois pas que la vie avant tout ça était si mauvaise.
Thank you.
Les propos clairement argumentés de Pegpat présentent en partie une contradiction avec ceux de ses amis et collègues européens. Pour Peg, il faut donc protéger à tout prix à 100% les forêts naturelles et uniquement exploiter les plantations pour nos besoins en bois. Les activistes d'associations européennes comme Fern Canopé ou le réseau pour les alternatives forestières plaident bien plus pour un travail de récolte sélective dans des forêts jardinées et mixtes, avec un travail qui respecte l'écosystème. Ils mettent bien plus en question les plantations. Ils mettent surtout en question les plantations. Certes, les conditions ne sont pas les mêmes, mais cela reste un débat à poursuivre. Pour conclure cette émission, écoutons Xavier Morin, chercheur au CNRS et président de Canopé. Il nous donne ses impressions sur cette conférence sur les forêts, la biodiversité et le climat organisée par la Commission européenne début février 2020 à Bruxelles. La conférence a été ouverte par le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui nous a plutôt surpris avec un discours assez convaincant. Reste à savoir ce que la fameuse Green Deal apportera réellement. Xavier Morin.
Déjà, moi, j'étais surpris, effectivement, de la... On se rend quand même ce qui transpire, c'est une volonté d'action, volonté de changer les pratiques. Donc là, c'est à l'échelle européenne. Et plus généralement, tout le monde a bien conscience que les, on va dire les écosystèmes en général, mais les forêts en particulier, sont un peu à la croisée des chemins vis-à-vis de l'impact du changement climatique et de la réponse à apporter. Et en fait, c'est particulièrement important en forêt, parce qu'en forêt, avec le temps long nécessaire à la forêt, si jamais on doit prendre des mesures, il ne faut pas se tromper. On n'aura pas le droit de se tromper. Et j'étais agréablement surpris en fait de vraiment la prise de conscience complètement maintenant intégrée, assumée sur ces questions. Et j'ai l'impression qu'il se passe aussi un peu la même chose en France. J'ai l'impression que c'est en ce moment que beaucoup de choses se jouent dans cette thématique. Et ça, c'était vraiment un bon point. Après, dans les échanges eux-mêmes, j'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité. Il y avait des choses plus ou moins satisfaisantes, encore une fois, sur le bon constat ou pas de la situation, selon moi en tout cas. Mais globalement, je trouve quand même que ça va dans le bon sens, en général. C'est mon sentiment. Que ce soit les décideurs écoutent et que les chercheurs, personnes d'ONG, apportent les bons éléments sur la table. Parfois, bien sûr, il y a un peu d'inertie, un peu comme toujours en forêt. Mais globalement, je m'attendais en fait à beaucoup plus de flou et de frein, en tout cas dans ce que j'ai vu hier.
C'était frappant aussi qu'on peut penser ce qu'on veut de son livre, mais en tout cas c'est un livre qui était énormément lu, M. Volleben. Et lui, il était un peu le grand témoin qui a démarré après M. Timmermans. Mais lui, quand même, son message était clair, contre complètement, par exemple, l'industrie de biomasse, pour des forêts mixtes, enfin, ce que en gros tu dis, quoi. Mais je veux dire... C'est intéressant parce qu'il est devenu tellement connu qu'ils sont un peu obligés de... Parce qu'ils ont eux-mêmes mis M. Volleben avant.
Oui, c'est vrai. J'avais, pour être honnête, un petit peu peur quand j'ai vu qu'il intervenait là, en début de la journée. Parce que, vis-à-vis de son livre, les aspects parfois un peu angéliques sur la dynamique forestière, les coopérations entre les arbres, je ne dis pas que tout est faux, hein, mais bon, c'est quand même une vision un peu... d'artiste des connaissances scientifiques qu'on a sur la forêt. Mais justement, il a pas parlé de ça, et il a surtout parlé de l'avenir des forêts et des menaces qui planent sur elles. Et effectivement, son discours était vraiment très intéressant, très clair, et étayé, argumenté, même s'il se servait beaucoup d'exemples que lui connaissait en Allemagne, mais c'était très frappant. Par exemple, je me souviens de la carte qu'il a montrée de différence de température entre le centre-ville de Berlin et les forêts de feuillus autour, et les forêts aussi de résineux autour, et de voir les énormes différences de température qu'on avait, notamment grâce aux feuillus, où on avait parfois, il parlait en plein été l'année dernière, de moins 15 degrés par rapport à Berlin. Donc voilà, il avait vraiment, je pense qu'il a apporté vraiment des éléments frappants, et au final, c'était vraiment bien qu'il intervienne et qu'il introduise cette journée.
Plus généralement sur le rapport, c'est un peu tôt peut-être, mais le rapport de Gaëtan est publié par Fern et Canopé. Là, c'est un peu le lancement officiel, mais ça a été quand même un peu lu par certaines personnes, ça a été présenté dans certains cercles. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment, leur réaction ?
Les réactions, j'ai l'impression que... Alors, peut-être que ma vision du monde forestier est biaisée, mais que c'était quelque chose qui était vraiment attendu, même si, encore une fois, la sortie officielle n'a pas encore eu lieu, mais on va dire les petites choses qui ont fuité, il y a tout de suite eu un écho. Et en tout cas, moi, pas nommer les personnes, mais plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, c'est exactement ce qu'on attendait ». Et c'est là qu'on a réalisé que même si ce n'était pas que la motivation pour faire ce rapport, mais une des motivations, c'était aussi de quelque part montrer qu'il y avait autre chose que le rapport que l'INRA avait proposé qui était possible. Et on a réalisé qu'en fait, beaucoup de gens ont eu peur. Enfin, ce rapport de l'INRA, enfin, ou plutôt, pour être tout à fait précis, la vulgarisation faite de ce rapport de l'INRA et la communication faite autour, beaucoup de gens qui devaient quand même percevoir, que ce soit leur intime conviction ou par leur étude du rapport lui-même, que bah, ça n'allait pas dans la bonne direction, non, et que les solutions proposées pour dire les choses ont l'air d'être comme commandées par un lobby industriel de dynamiser les coupes et notamment le bois énergie en France, chose dont on sait que bois énergie à l'échelle industrielle est ultra dangereuse pour les forêts, pas du tout efficace pour lutter contre le changement climatique à court terme et fait même planer le risque d'un retour du 19e siècle où on n'avait plus que 10% des forêts qu'on a actuellement en France parce qu'il fallait couper du bois pour faire de l'énergie. Donc voilà, très bon retour du rapport Canopée de Gaëtan pour l'instant et j'ai vraiment hâte qu'on fasse la sortie officielle dans quelques jours.
Pour conclure, j'aimerais, ça m'a frappé que, je crois que c'est comme toi qui as dit ça hier dans ton intervention, c'est qu'en fait, on est devant une situation où, parce qu'on a des incertitudes, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. On doit expérimenter, mais en fait, c'est un peu la seule fois qu'on peut expérimenter. Parce que je veux dire, le changement climatique est tellement rapide et que dans 30-40 ans, on va peut-être avoir le fameux emballement, enfin je sais pas quoi. Donc c'est une situation très particulière pour des chercheurs, mais aussi des praticiens, quoi.
Tout à fait. Comme je disais oui, hier, en conclusion de mon intervention, dans la recherche forestière, on parle d'expérimentation à ciel ouvert. Et que le changement climatique, voilà, c'est comme une expérimentation en cours géante. Et le problème, c'est que par rapport à d'autres expérimentations, là, il n'y aura pas de reproductibilité possible. Il n'y a pas de deuxième chance. Et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est pour ça que moi, j'aimerais que la notion de principe de précaution forestier soit quelque chose vraiment qui percole, parce que, encore une fois, face à toutes ces incertitudes, et conditionné par le fait qu'on n'aura pas de deuxième chance, pourquoi dilapider le capital, d'autant plus de plus en plus de résultats scientifiques montrent que ce capital peut être en fait assez résilient si on lui donne les moyens, c'est-à-dire si on ne le coupe pas trop. Pourquoi dilapider ce capital au nom de l'atténuation pour le futur ? C'est comme j'ai dit hier, on voit les forêts comme un levier d'action contre le changement climatique. Il faut juste pas brûler le levier, quoi.
C'était la deuxième partie de Forêt, Biodiversité et Climat, une émission réalisée par Radio Zinzine. Les musiques qui ont accompagné cette émission sont toutes extraites de disques du Canadien James Stone. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site Radio Zinzine www.radiozinzine.org.